Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Hémet.
Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Dans quelques minutes, le débat sur les mesures de restriction prises pour enrayer l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais d'abord, il nous restait une question d'un auditeur sur la situation en Irak. Nous sommes en ligne avec Youssouf à Nairobi au Kenya. Bonjour Youssouf.
Bonjour Juan.
Donc vous aviez une question sur la situation en Irak et l'État islamique.
Oui, parfait. Il y a de cela 3 semaines, j'ai suivi sur les ondes de RFI que l'État islamique étendait sa sphère d'influence à partir de la vente du pétrole. Alors, ma question est de savoir, comment parvient-elle à vendre ce pétrole? Et qui accepte de faire du commerce avec ces groupes djihadistes dits dangereux? Parce qu'on a comme l'impression que certains États s'amusent à créer des groupes armés au nom du terrorisme, déstabiliser d'autres États pour assouvir les intérêts économiques.
Alors... Pour vous répondre, nous sommes toujours en ligne avec Myria Benrad, spécialiste de l'Irak et du monde arabe, chercheuse associée aux séries Sciences Po. Effectivement, l'État islamique a mis la main sur pas mal de puits de pétrole, de champs pétroliers. Comment le mouvement arrive-t-il à vendre ce pétrole et qui pourrait lui acheter?
Bah c'est comme je l'ai dit, c'est des circuits informels de contrebande, hein. Donc il est très difficile de savoir finalement comment tout cela s'organise. On sait par exemple quand même qu'en Syrie, l'État islamique et d'autres groupes qui ont placé sous leur coupe des champs, donc des gisements pétroliers, gaziers, revendent une partie de ces hydrocarbures au régime même de Bachar el-Assad.
Ça c'est incroyable, Damas qui devient client de ses propres ennemis en quelque sorte.
Ben oui, c'est incroyable et en même temps non, parce que si vous passez sur le plan de l'économie de guerre, une économie de guerre, il n'y a finalement plus d'allégeance, il n'y a plus de ligne idéologique. On est dans du trafic, dans du grand banditisme, de la criminalité organisée. Et quand j'ai dit tout à l'heure que ces djihadistes étaient des assassins, ce sont aussi des bandits. Il faut quand même pas perdre cela de vue. Il y a encore une fois toute une économie de guerre qui s'est mise en place autour de ce groupe et qui fait qu'on assiste effectivement à des choses un peu contradictoires, un peu paradoxales, mais qui en réalité sont assez logiques, encore une fois, dans le contexte de guerres qui sont sales. Et c'est le cas à la fois pour la Syrie et pour l'Irak. Alors après, il y a aussi le marché intérieur. Par exemple, on sait que l'État islamique, il y a par exemple un problème d'alimentation en essence en Irak. Eh bien, la contrebande, c'est aussi ça, la vente d'essence, tout ce qui est même les produits raffinés, un certain nombre d'autres matériaux. Eh bien, c'est aussi aux mains des djihadistes pour beaucoup, surtout dans les provinces que j'ai citées tout à l'heure, à Al-Anbar, les grandes provinces sunnites. Donc voilà comment les choses se passent. Après. Vous dire comment les circuits informels se sont organisés de manière précise, c'est absolument impossible pour moi d'apporter ces précisions. On a un certain nombre d'intermédiaires. Tout cela est encore une fois très sale. Et n'oubliez pas non plus que l'Irak est le pays aujourd'hui, un des pays les plus corrompus au monde. Donc quand je parle de l'État islamique et de la contrebande de pétrole et de ses trafics, il faut quand même pas perdre de vue qu'en arrière-fond, on a un problème plus systémique qui est celui de la corruption, qui gangrène littéralement l'appareil d'État, les ministères, les administrations et aussi les transactions, tout ce qui touche au business, qui est en large part un business sale aujourd'hui en Irak. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette
aspect. Là encore, une source de revenus très importante pour l'État islamique. Merci beaucoup, Myria Benrad, d'être resté avec nous, de nous avoir donné toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Irak et du monde arabe, chercheuse associée aux séries Sciences Po. Merci à Youssouf pour nous avoir posé sa question depuis Nairobi, au Kenya. 33 9 693 2 fois 70, le débat du jour, les mesures de restriction pour éviter la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de frontières se ferment, des compagnies aériennes refusent de desservir, notamment la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone, des régions entières sont placées sous quarantaine, personne n'entre, personne ne sort. Des conséquences, bien sûr, vous nous appelez, vous réagissez, 33 9 693 2 fois 70, Mohamed, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Conakry, en Guinée, et vous, toutes ces dispositions de restriction vous semblent bienvenues.
Tout d'abord, merci à la radio mondiale de me donner la parole. Et je profite de votre antenne pour féliciter et remercier le gouvernement du professeur Alpha Condé qui s'est vraiment impliqué de façon très efficace vraiment dans la riposte contre Ebola. Mais essentiellement, nous, chez nous, on a connu vraiment deux problèmes majeurs. Premièrement, la maladie Ebola était méconnue non seulement par la population, mais aussi surtout par les médecins. Mais dès lors que des symptômes ont été envoyés à la clinique Pasteur de Paris, mais aussi de Dakar pour examen, et dès que ça a été confirmé que c'était vraiment la maladie Ebola, aussitôt le gouvernement du professeur Alpha Condé a mis sur pied une commission interministérielle de riposte contre Ebola, et cette commission a contribué vraiment à sensibiliser efficacement la population, et dans tous les lieux publics, il était conseillé vraiment de se laver les mains vraiment avant d'entrer et après quand on sort, et je pense que c'était des mesures vraiment qui étaient vraiment efficacement c'est-à-dire respectées par le peuple. Mais très malheureusement, on a aussi connu des hommes politiques qui, de l'autre côté, disaient à la population que la maladie était une invention du professeur Alpha Condé. Donc, cela aussi a amené d'autres citoyens à ne pas vraiment respecter des mesures d'hygiène vraiment, données par des responsables sanitaires.
Il y a beaucoup de rumeurs, c'est vrai, beaucoup de rumeurs sur Ebola, beaucoup de désinformations. On l'a vu encore dans l'actualité ce matin avec l'attaque d'un centre au Liberia. Merci beaucoup, Mohamed. Vous étiez en ligne de Conakry. Un de vos compatriotes est également en ligne de la capitale guinéenne, Malik. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous aussi, vous êtes favorable aux mesures prises, toutes les restrictions de circulation. Vous voudriez même que ça aille plus loin, c'est ça?
Oui, monsieur Juan. Vous savez, en fait, quand cette maladie, cette épidémie a commencé en Guinée, si nous avions pris les mesures très tôt, je pense qu'on aurait pu maîtriser la propagation de l'épidémie. Et aujourd'hui, on a mis les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont les bonnes mesures. Mais en même temps, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Vous savez, le foyer le plus actif de cette maladie se trouve dans la zone, en fait, dans la zone forestière. Mmh. Et moi, je demande à ce qu'on mette en quarantaine cette zone forestière.
Alors, justement, j'aimerais qu'on écoute la réaction à cette proposition, Malik. C'est la réaction d'Ibrahima, qui lui est à Kissidougou, qui est justement en région forestière dans le sud de la Guinée. Bonjour, Ibrahima.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Malik de mettre en fait votre région en quarantaine comme d'autres régions de Guinée?
Ben, il n'y a pas d'autres régions de Guinée en quarantaine. Ce n'est pas en Guinée forestière qu'on va le faire. C'est de l'exagération. C'est une mesure disproportionnée par rapport à la réalité. Parce que moi, je vous ai dit la dernière fois, le vendredi, qu'on m'entretenait que ici en Guinée forestière, c'est vrai. On a eu très peur au moment où la maladie a été arrivée dans notre région. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce aux différentes mesures sanitaires, il n'y a plus de panique. Je ne dis pas que la chaîne de contamination est totalement rompue, mais vraiment, il n'y a plus de panique il n'y a plus de danger pour qu'on mette la région en quarantaine. Parce que c'est pourquoi le gouvernement même a refusé le terme d'état d'urgence comme si on était en guerre. Comme si on était en guerre.
Pour vous, la mise en quarantaine de la région, il y aurait des répercussions trop graves? Je pense aux répercussions économiques, par exemple.
Voilà, ce serait même trop grave plus que Ebola même. Ce serait même trop grave plus que Ebola même. Vous savez, c'est une zone de pauvreté. Les gens sont obligés de se déplacer tous les matins pour chercher de quoi manger. Vous dites à ces gens-là, bon, ne sortez pas en dehors de votre région. Alors que tout n'est pas là. Il faut aller ailleurs pour aller chercher. Donc moi, je trouve toujours que la quarantaine d'une région, c'est catastrophique plus que la maladie Ebola même.
Catastrophique pour l'économie, effectivement, Ibrahima. C'est peut-être également le propos de Junior, qui nous appelle lui aussi de Conakry. Bonjour, Junior.
Oui, bonjour, tout va bien.
Vous constatez déjà les répercussions très graves sur l'économie guinéenne du fait des mesures de restriction.
Oui, ben pas du fait de la restriction, du fait plutôt d'Ebola et de ses effets communicationnels. Modeste directeur de l'Office national du tourisme que je suis, la fièvre Ebola a atteint dans son fœtal l'économie, notamment le secteur touristique, qui n'était déjà pas bien portant en Guinée, qui n'a jamais été au pic en Guinée durant 40 années. Donc, avec les efforts du président de la République par la construction d'infrastructures dignes à recevoir des touristes déjà d'affaires. Il va de soi qu'aujourd'hui, depuis l'apparition et la communication, ou du moins la publicité mensongère exagérée autour de cette maladie, a fait que le secteur a été atteint dans son fœtal, en effet, oui.
Est-ce que les fermetures de frontières, les compagnies aériennes qui ne se déplacent plus, les mises sous quarantaine, est-ce que ça n'envenime pas encore cette situation économique déjà compliquée? Est-ce que c'est pas exagéré selon vous?
Ben, c'est de toute façon un peu exagéré. Le contraste en Guinée, et ce qui est paradoxal, au moment où la maladie était à son pic, cher ami Sébastien, vous constaterez que la Guinée n'avait pas été isolée. C'est maintenant qu'il y a maintenant un cas sur 10 que certaines mesures sont en train d'être prises. Bon, nous respectons les décisions des pays souverains, mais aujourd'hui, sans parier du fait que la maladie est complètement jugulée en Guinée, mais ces derniers temps, avec les mesures drastiques et le marketing opéré par le président de la République et son gouvernement, aujourd'hui, la Guinée est normalement devenue une destination fréquentable. Nous respectons la décision dans la mesure où il va falloir éradiquer la maladie dans nos zones frontalières pour que nous connaissions la paix, la trêve en ce qui
donc
concerne cette
vous acceptez les mesures de restriction, même si effectivement elles touchent durement l'économie. Je rappelle que selon le FMI et la Banque mondiale, la croissance va perdre un point en Guinée à cause d'Ebola. Elle passait de 4,5% à 3,5%. Merci Junior. On salue également Ibrahima et Malik qui étaient également en ligne depuis la Guinée. 339 693 693 70. Un nouvel auditeur en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Rimoun, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est la situation, vous, en Afrique du Sud? Le pays n'est pas touché par l'épidémie encore. Est-ce qu'il y a des mesures prises pour enrayer l'épidémie?
Oui, bien évidemment, les autorités sud-africaines ont pris des mesures depuis le mois d'avril passé. Ils ont d'abord installé des scanners thermiques au niveau des aéroports pour détecter systématiquement les voyageurs qui proviennent de l'extérieur et qui auront peut-être certainement de température un peu plus élevée que la normale. Et ils ont aménagé aussi un centre médical au sein de ces aéroports pour que ces personnes-là puissent être conduites dans ces locaux pour que des tests plus approfondis leur soient administrés pour effectivement détecter si elles portent le virus ou pas.
Des mesures donc qui sont prises, et l'Afrique du Sud qui a quand même eu un petit vent de panique il y a quelques temps avec l'arrivée d'un bateau dans le port de Richards Bay, c'est à l'est de Johannesburg, un bateau venant du Liberia et qui a été inspecté. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque à Johannesburg notamment.
Oui, ça c'est vrai, c'était un bateau qui venait du Liberia. Ça fait partie des mesures que les autorités ont prises, effectivement, parce que maintenant tous les bateaux qui proviennent de l'Afrique de l'Est doivent être isolés, inspectés et désinfectés avant qu'on ne puisse les décharger. Et quand les gens ont commencé à faire ce travail, la population a paniqué, ils ont cru que, bon, comme le bateau venait du Liberia, certainement qu'il y a eu des cas d'Ebola à bord et consorts, alors que c'était juste des mesures de précaution qui sont mises en place par le gouvernement.
Merci beaucoup, Rimoun, pour nous avoir apporté votre témoignage depuis l'Afrique du Sud. 339-693-693-70. Nous sommes en ligne avec Edouard depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour, Edouard.
Oui, bonjour.
Selon vous, Ebola en Côte d'Ivoire a créé une véritable psychose, hein, même s'il n'y a pas encore de cas avérés. C'est un petit peu la panique chez certains habitants.
Oui, en effet, sur le commun des mortels, la population, parce que il y a quelques jours de cela, en peine une semaine, des SMS ont circulé à travers les téléphones portables, indiquant aux gens de ne plus serrer la main des autres, de ne plus donner des accolades, que la maladie se transmettrait par relations sexuelles et par le sang, par tout ce qui paraît comme liquide. Alors, ce qui fait que maintenant, à Abidjan, bon nombre, notamment moi, pour prendre mon exemple, on ne salue plus les gens directement en se serrant les mains. On évite au maximum pour ceux qui ne sont pas nos proches, c'est-à-dire nos compagnons ou bien nos compagnes, pour de donner des accolades ou bien de faire des embrassades.
Alors, la Côte d'Ivoire a interdit l'arrivée de bateaux provenant de Sierra Leone, Libéria et Guinée. La compagnie nationale aérienne ne dessert plus ces trois pays. Est-ce que vous pensez qu'on va trop loin, en sachant que l'Organisation mondiale de la santé ne recommande pas les fermetures de frontières, ne recommande pas l'arrêt de la circulation aérienne. L'OMS dit qu'il faut se concentrer les moyens sur l'isolement des malades et la recherche des gens qui étaient en contact avec eux. Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans la prévention?
Non, de mon point de vue, on ne va pas trop loin. Vous savez que nous sommes des pays tout le temps démunis, tout le temps en train de tendre la main pour prendre air, pour demander de l'aide. Même on a vu que l'OMS ou bien même l'ONU veut aider financièrement ces pays qui sont concernés. Moi, je crois qu'il faut prendre des mesures qui coûtent le moins cher possible. Et je pense d'ailleurs même qu'on pourrait même aller loin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut proposer. Je ne suis pas un spécialiste. Mais il faut, au-delà de l'isolement des zones ou bien des personnes concernés, il faut prendre des dispositions pour éviter que, effectivement, la maladie... Parce qu'aujourd'hui, c'est la panique, comme je dis, même les spécialistes ne savent pas comment freiner un peu la propagation de cette maladie.
Êtes renforcé encore, aller plus loin encore que ce qui est déjà fait sur place. Merci beaucoup, Edouard, en ligne depuis Abidjan. Nous sommes à présent avec Mamadi, qui est à Conakry. Bonjour, Mamadi.
Oui, bonjour, monsieur Sébastien.
Alors vous n'êtes pas forcément d'accord avec l'auditeur précédent. Pour vous, toutes ces mesures de restriction de circulation sont exagérées.
Bien sûr, oui. Parce que je ne dis pas que c'est exagéré, c'est nécessaire. Vous savez que les pays africains ont des problèmes de finances, ont des problèmes de médicaments. Bon, et c'est... Le problème, c'est que monsieur vient d'en dire par rapport à la gestion de Ebola. Vous savez, le cas guinéen, comme c'est ici où les premiers cas ont été signalés, ça s'est vite propagé en un mot. Donc, l'État a pris des dispositions, mais tardivement. Si vous remarquez aujourd'hui, les mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement est venu un peu tardivement.
Réaction donc, un peu tardive hein, donc de la Guinée, de Conakry. Merci beaucoup, Mamadou. Il nous reste encore juste un petit peu de temps pour prendre Gustave en ligne depuis Abidjan. Bonjour, Gustave.
Bonjour.
Pour vous, les mesures de restriction de circulation, fermeture des frontières, liaison aérienne, tout ça, c'est un petit peu disproportionné?
Ouais. Ces mesures-là sont un peu dures contre la population. Je pense que... Ces mesures sont venues un peu calmer les ardeurs et la peur qui régnait au sein de la population. Parce qu'à Abidjan, ici, et c'est la panique, comme vous voulez le dire, c'est la panique. Et que ces mesures sont venues un peu consoler cette population-là. Et quand on parle des interdictions de bateaux, des avions, moi, je pense que c'est vraiment inutile. C'est inutile parce que la sous-région, la CDR, par exemple, quand même nos transactions entre nous, nous fournissons, par exemple, là où moi je travaille concrètement, nous produisons des pâtes qui sont fournies dans la sous-région, qui sont fournies en Guinée, au Mali. Et ces mesures-là vont faire que l'entreprise va fermer les portes et que les gens seront au chômage.
Ah d'accord, donc une vraie conséquence économique dans votre vie de tous les jours avec la clé mise sous la porte de votre entreprise, d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Gustave, vous étiez en ligne depuis Abidjan. On s'excuse auprès des auditeurs qui attendaient leur tour, vous aurez l'occasion de vous exprimer probablement dans la Libre Antenne ou dans d'autres émissions. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition en tout cas d'Appel sur l'actualité. Nous parlerons des étudiants alors que la situation est tendue à l'université de Dakar après des affrontements avec la police. Les inscrits sont en grève, ils contestent la réforme de l'enseignement supérieur avec la hausse des frais d'inscription et la révision des critères d'attribution des bourses. Que pensez-vous de ces revendications? Quel regard portez-vous sur les universités dans votre pays? Nous lançons le débat au 339 693 693 70 ou au 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas notre adresse email ainsi que nos comptes Facebook et Twitter. À demain.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.